Deuxième partie, chapitre 2. Il lisait distraitement à un étalage de libraire un livre de poésie. Le nom de l'auteur lui était inconnu. Certains mots le frappèrent. Il resta attaché. À mesure qu'il continuait de lire entre les feuilles non coupées, il lui sembla reconnaître une voix, des traits amis. Impuissant à définir ce qu'il sentait, et ne pouvant se décider à se séparer du livre, il l'acheta. Rentré chez lui, il reprit sa lecture. Aussitôt, son obsession le reprit. Le souffle impétueux du poème évoquait, avec une précision de visionnaire, les âmes immenses et séculaires, ces arbres gigantesques dont les hommes sont les feuilles et les fruits, les patries. De ces pages surgissait la figure surhumaine de la mère, celle qui fut avant les vivants d'aujourd'hui, celle qui sera après, celle qui trône, pareille aux madones byzantines, hautes comme des montagnes, au pied desquelles prient les fourmis humaines. Le poète célébrait le duel homérique de ces grandes déesses, dont les lances s'entrechoquent depuis le commencement de l'histoire, cette Iliade millénaire qui est à celle de Troie ce que la chaîne alpestre est aux collines grecques. Une telle épopée d'orgueil et d'action guerrière était loin des pensées d'une âme européenne comme celle de Christophe. Et pourtant, par lueur, dans cette vision de l'âme française, la Vierge pleine de grâce qui porte l'égide, Athéna aux yeux bleus qui brillent dans les ténèbres, la déesse ouvrière, l'artiste incomparable, la raison souveraine dont la lance étincelante terrasse les barbares tumultueux, Christophe apercevait un regard, un sourire qu'il connaissait et qu'il avait aimé. Mais au moment de la saisir, la vision s'effaçait. Et tandis qu'il s'irritait à la poursuivre en vain, voici qu'en tournant une page, il entendit un récit que, peu de jours avant sa mort, lui avait fait Olivier. Il fut bouleversé. Il courut chez l'éditeur. Il demanda l'adresse du poète. On la lui refusa, comme c'est l'usage. Il se fâcha, inutilement. Enfin, il s'avisa qu'il trouverait le renseignement dans un annuaire. Il le trouva, en effet, et aussitôt il alla chez l'auteur. Ce qu'il voulait, il le voulait bien. Jamais il n'avait su attendre. Quartier des Batignolles. Dernier étage. Plusieurs portes donnaient sur un couloir commun. Christophe frappa celle qu'on lui indiqua. Ce fut la porte voisine qui s'ouvrit. Une jeune femme, point belle, très brune, les cheveux sur le front, le teint brouillé, une figure crispée aux yeux vifs, demanda ce qu'on voulait. Elle avait l'air soupçonneux. Christophe exposa l'objet de sa visite, et, sur une nouvelle question, il donna son nom. Elle sortit de sa chambre et ouvrit l'autre porte avec une clé qu'elle avait sur elle. Mais elle ne fit pas entrer Christophe tout de suite. Elle lui dit d'attendre dans le corridor, et elle pénétra seule, lui fermant la porte au nez. Enfin, Christophe eut accès dans le logement bien gardé. Il traversa une pièce à moitié vide qui servait de salle à manger. Quelques meubles délabrés, près de la fenêtre sans rideau, une douzaine d'oiseaux piaillaient dans une volière. Dans la pièce voisine, sur un divan râpé, un homme était couché. Il se souleva pour recevoir Christophe. Ce visage émacié, illuminé par l'âme, ses beaux yeux de velours où brûlait une flamme de fièvre, ses longues mains intelligentes, ce corps mal fait, cette voix aiguë qui s'enrouait, Christophe reconnut sur le champ Emmanuel, le petit ouvrier infirme qui avait été la cause innocente, et Emmanuel, brusquement debout, avait aussi reconnu Christophe. Ils restaient sans parler. Tous deux, en ce moment, ils voyaient Olivier. Ils ne se décidaient pas à se donner la main. Emmanuel avait fait un mouvement de recul. Après 10 ans passés, une rancune inavouée, l'ancienne jalousie qu'il avait pour Christophe, ressortait du fond obscur de l'instinct. Il restait là, défiant et hostile. Mais lorsqu'il vit l'émotion de Christophe, lorsqu'il lut sur ses lèvres le nom qu'il pensait tous deux, Olivier, ce fut plus fort que lui. Il se jeta dans les bras qui lui étaient tendus. Emmanuel demanda, « Je savais que vous étiez à Paris, mais vous, comment avez-vous pu me trouver ?» Christophe dit, « J'ai lu votre dernier livre. Au travers, j'ai entendu sa voix. » N'est-ce pas ? Dit Emmanuel, vous l'avez reconnu. Tout ce que je suis à présent, c'est à lui que je le dois. Il évitait de prononcer le nom. Après un moment, il continua, assombri, « Il vous aimait plus que moi. » Christophe sourit. « Qui aime bien ne connaît ni plus ni moins. Il se donne tout à tout ce qu'il aime. » Emmanuel regarda Christophe. Le sérieux tragique de ses yeux volontaires s'illumina subitement d'une douceur profonde. Il prit la main de Christophe et le fit asseoir sur le divan près de lui. Ils se dirent leur vie. De 14 à 25 ans, Emmanuel avait fait bien des métiers. Typographe, tapissier, petit marchand ambulant, commis de librairie, clerc d'avoué, secrétaire d'un homme politique, journaliste. Dans tous, il avait trouvé moyen d'apprendre fiévreusement, ça et là, rencontrant l'appui de braves gens frappés par l'énergie du petit homme, plus souvent tombant aux mains d'hommes qui exploitaient sa misère et ses dons, s'enrichissant des pires expériences et réussissant à en sortir sans trop d'amertume, ni laissant que le reste de sa chétive santé. Des aptitudes singulières pour les langues anciennes, moins exceptionnelles qu'on ne croirait dans une race imbue de traditions humanistes, lui avaient valu l'intérêt et l'appui d'un vieux prêtre hellénisant. Ses études, qu'il n'avait pas eu le temps de pousser très avant, lui furent une discipline d'esprit et une école de style. Cet homme sorti de la bourbe du peuple, dont toute l'instruction s'était faite par lui-même, au hasard, et offrait des lacunes énormes, avait acquis un don de l'expression verbale, une maîtrise de la pensée sur la forme, que 10 ans d'éducation universitaire sont impuissants à donner à la jeune bourgeoisie. Il en attribuait le bienfait à Olivier. D'autres l'avaient pourtant plus efficacement aidé. Mais d'Olivier venait l'étincelle qui avait allumé dans la nuit de cette âme la veilleuse éternelle. Les autres n'avaient fait que verser de l'huile dans la lampe. Il dit « Je n'ai commencé de le comprendre qu'à partir du moment où il s'en est allé. Mais tout ce qu'il m'avait dit était entré en moi. Sa lumière ne m'a jamais quitté. » Il parlait de son œuvre, de la tâche qui lui avait été, prétendait-il, léguée par Olivier, du réveil des énergies françaises, de cette flambée d'idéalisme héroïque dont Olivier était l'annonciateur. Il voulait s'en faire la voix retentissante qui plane sur la mêlée et qui sonne la victoire prochaine. Il chantait l'épopée de sa race ressuscitée. Ses poèmes étaient bien le produit de cette étrange race qui, à travers les siècles, a conservé si fort son vieil arôme celtique, tout en mettant un orgueil bizarre à vêtir sa pensée des défroques et des lois du conquérant romain. On y trouvait tout pur, cette audace gauloise, cet esprit de raison folle, d'ironie, d'héroïsme, ce mélange de jactance et de bravoure qui allait tirer la barbe au sénateur de Rome, piller le temple de Delphes et lançait en riant ses javelots contre le ciel. Mais il avait fallu que ce petit niaf parisien incarnât ses passions, comme avaient fait ses grands-pères à Perruque et comme feraient sans doute ses arrière-petits-neveux, dans les corps des héros et des dieux de la Grèce, morts depuis 2000 ans. Instinct curieux de ce peuple qui s'accorde avec son besoin d'absolu. En posant sa pensée sur les traces des siècles, il lui semble qu'il impose sa pensée pour les siècles. La contrainte de cette forme classique ne faisait qu'imprimer un élan plus violent aux passions d'Emmanuel. La calme confiance d'Olivier en les destins de la France s'était transformée chez son petit protégé en une foi brûlante, affamé d'action et sûr du triomphe. Il le voulait, il le voyait, il le clamait. C'était par cette foi exaltée et par cet optimisme qu'il avait soulevé les âmes du public français. Son livre avait été aussi efficace qu'une bataille. Il avait ouvert la brèche dans le scepticisme et dans la peur. Toute la jeune génération s'y était ruée à sa suite vers les destins nouveaux. Il s'animait en parlant, ses yeux brûlaient, sa figure blême se marbrait de plaques roses et sa voix était criarde. Christophe ne pouvait s'empêcher de remarquer le contraste entre ce feu dévorant et le corps misérable qui lui servait de bûcher. Il ne faisait qu'entrevoir l'émouvante ironie de ce sort. Le chantre de l'énergie, le poète qui célébrait la génération des sports intrépides, de l'action, de la guerre, pouvait à peine marcher sans essoufflement. Était sobre, suivait un régime strict, buvait de l'eau, ne devait pas fumer, vivait sans maîtresse, portait toutes les passions en lui et était réduit par sa santé à l'ascétisme. Christophe contemplait Emmanuel, et il éprouvait un mélange d'admiration et de pitié fraternelle. Il n'en voulait rien montrer, mais sans doute ses yeux en trahirent quelque chose. Ou l'orgueil d'Emmanuel, qui gardait dans son flanc une blessure toujours ouverte, crut lire dans les yeux de Christophe la commisération qui lui était plus odieuse que la haine. Sa flamme tomba d'un coup. Il cessa de parler. Christophe essaya vainement de ramener la confiance. L'âme s'était refermée. Christophe vit qu'il l'avait blessé. Le silence hostile se prolongeait. Christophe se leva. Emmanuel le reconduisit sans un mot à la porte. Sa démarche accusait son infirmité. Il le savait. Il mettait son orgueil à y sembler indifférent. Mais il pensait que Christophe l'observait et sa rancune s'en aggravait. Au moment où il serrait froidement la main à son hôte pour le congédier, une jeune dame élégante sonnait à la porte. Elle était escortée d'un gamin prétentieux que Christophe reconnut pour l'avoir remarqué à des premières théâtrales. Souriant, caquetant, saluant de la patte, baisant la patte des dames et, de sa place à l'orchestre, décochant des sourires jusqu'au fond du théâtre. Faute de savoir son nom, il l'appelait le Dain. Le Dain et sa compagne, à la vue d'Emmanuel, se jetèrent sur le cher maître avec des effusions obséquieuses et familières. Christophe, qui s'éloignait, entendit la voix sèche d'Emmanuel répondre qu'il ne pouvait recevoir, qu'il était occupé. Il admira le don que possédait cet homme d'être désagréable. Il ignorait ses raisons de faire mauvais visage aux riches snobs qui venaient le gratifier de leurs visites indiscrètes. Ils étaient prodigues de belles phrases et d'éloges. Mais ils ne s'occupaient pas plus d'alléger sa misère que les fameux amis de César Franck ne cherchèrent jamais à le décharger de leçons de piano que jusqu'au dernier jour il dut donner pour vivre. Christophe retourna plusieurs fois chez Emmanuel. Il ne réussit plus à faire renaître l'intimité de la première visite. Emmanuel ne témoignait aucun plaisir à le voir et se tenait sur une réserve soupçonneuse. Par moments, le besoin d'expansion de son génie l'emportait. Un mot de Christophe le faisait vibrer jusqu'aux racines. Alors, il s'abandonnait à un excès d'enthousiasme, et son idéalisme jetait sur son âme cachée de splendides lueurs. Puis, brusquement, il retombait. Il se crispait dans un silence hargneux, et Christophe retrouvait l'ennemi. Trop de choses les séparaient. La moindre n'était pas leur différence d'âge. Christophe s'acheminait vers la pleine conscience et la maîtrise de soi. Emmanuel était encore en formation et plus chaotique que Christophe n'avait jamais été. L'originalité de sa figure tenait aux éléments contradictoires qu'on y trouvait aux prises. Un stoïcisme puissant, qui tâchait de dompter une nature rongée de désirs ataviques, le fils d'un alcoolique et d'une prostituée, une imagination frénétique qui se cabrait sous le mort d'une volonté d'acier, un immense égoïsme et un immense amour des autres, un idéalisme héroïque et une avidité de gloire qui le rendaient maladivement inquiet des autres supériorités. Si la pensée d'Olivier, si son indépendance, son désintéressement se retrouvaient en lui, si Emmanuel était supérieur à son maître par sa vitalité plébéienne, qui ne connaissait pas l'écœurement de l'action, par le génie poétique et par la rude écorce qui le défendait contre tous les dégoûts, il était loin d'atteindre la sérénité du frère d'Antoinette. Son caractère était vaniteux, tourmenté, et le trouble d'autres êtres venait s'ajouter au sien. Il vivait dans une union orageuse avec une jeune femme qu'il avait pour voisine, celle qui avait reçu Christophe la première fois. Elle aimait Emmanuel et s'occupait de lui jalousement, faisait son ménage, recopiait ses œuvres, les écrivait sous sa dictée. Elle n'était pas belle et portait le fardeau d'une âme passionnée. Sortie du peuple, longtemps ouvrière dans un atelier de cartonnage, puis employée des postes, elle avait passé une enfance étouffée dans le cadre ordinaire des ouvriers pauvres de Paris. Âmes et corps entassés, travail harassant, promiscuité perpétuelle, pas d'air, pas de silence, jamais de solitude, impossibilité de se recueillir, de défendre la retraite de son cœur. Esprit fier qui couvait une ferveur religieuse pour un idéal confus de vérité, elle s'était usé les yeux à copier pendant la nuit, et parfois sans lumière, à la clarté de la lune, Les Misérables de Hugo. Elle avait rencontré Emmanuel à un moment où il était plus malheureux qu'elle, malade et sans ressources. Elle s'était vouée à lui. Cette passion était le premier, le seul amour de sa vie. Aussi, elle s'y attachait avec une ténacité d'affamée. Son affection était pesante pour Emmanuel, qui la partageait moins qu'il ne la subissait. Il était touché de ce dévouement. Il savait qu'elle lui était la meilleure des amies, le seul être pour qui il fut tout et qui ne put se passer de lui. Mais ce sentiment même l'écrasait. Il avait besoin de liberté, il avait besoin d'isolement. Ses yeux, qui mendiaient avidement un regard, l'obsédaient. Il lui parlait avec dureté, il avait envie de lui dire « va-t'en ». Il était irrité par sa laideur et par ses brusqueries. Si peu qu'il connût la société mondaine, et quelque mépris qu'il lui témoigna, car il souffrait de s'y voir plus laid et plus ridicule, il était sensible à l'élégance, il subissait l'attrait de femme qui avait pour lui, il n'en doutait pas, le sentiment qu'il avait pour son amie. Il tâchait de témoigner à celle-ci une affection qu'il n'avait pas, ou du moins que ne cessait d'obscurcir des bourrasques de haine involontaires. Il n'y parvenait point. Il portait dans sa poitrine un grand cœur généreux, avide de faire le bien, et un démon de violence trop apte à faire le mal. Cette lutte intérieure, et la conscience qu'il avait de ne pouvoir la terminer à son avantage, le jetaient dans une sourde irritation dont Christophe recevait les éclats. Emmanuel ne pouvait se défendre envers Christophe d'une double antipathie. L'une issue de sa jalousie ancienne, ses passions d'enfance dont la poussée subsiste, même quand on en a oublié la cause, l'autre inspirée par un brûlant nationalisme. Il incarnait en la France tous les rêves de justice, de pitié, de fraternité humaine, conçus par les meilleurs de l'époque précédente. Il ne l'opposait pas au reste de l'Europe, comme une ennemie dont la fortune croît sur les ruines des autres nations. Il la mettait à leur tête, comme la souveraine légitime qui règne pour le bien de tous, épée de l'idéal, guide du genre humain. Plutôt qu'elle commît une injustice, il l'eût préférée morte, mais il ne doutait point d'elle. Il était exclusivement français, de culture et de cœur, uniquement nourri de la tradition française, dont il retrouvait les raisons profondes en son instinct. Il méconnaissait avec sincérité la pensée étrangère, pour laquelle il avait une condescendance dédaigneuse, une irritation si l'étranger n'acceptait point cette situation humiliée. Christophe voyait tout cela, mais plus âgé et plus instruit par la vie, il ne s'en affectait point. Si cet orgueil de race ne laissait pas d'être blessant, Christophe n'en était pas atteint. Il faisait la part des illusions de l'amour filial, et il ne songeait pas à critiquer les exagérations d'un sentiment sacré. Au reste, l'humanité même trouve son profit à la croyance vaniteuse des peuples dans leur mission. De toutes les raisons qu'il avait de se sentir éloigné d'Emmanuel, une seule lui était pénible. La voix d'Emmanuel, qui s'élevait parfois à des intonations suraiguës. L'oreille de Christophe en souffrait cruellement. Il ne pouvait s'empêcher de faire des grimaces. Il tâchait qu'Emmanuel ne les vît point. Il s'appliquait à entendre la musique et non pas l'instrument. Une telle beauté d'héroïsme rayonnait du poète infirme quand il évoquait les victoires de l'esprit, devancière d'autres victoires, la conquête de l'air, le dieu volant qui soulevait les foules et, comme l'étoile de Bethléem, les entraînait à sa suite, extasiés, vers quels lointains espaces ou quelle revanche prochaine. La splendeur de ses visions, d'énergie, n'empêchait pas Christophe d'en sentir le danger, de prévoir où menait ce pas de charge et la clameur grandissante de cette nouvelle Marseillaise. Il pensait, avec un peu d'ironie, sans regret du passé ni peur de l'avenir, que le chant aurait des échos que le chantre ne prévoyait pas, et qu'un jour viendrait où les hommes soupireraient après le temps disparu de la foire sur la place. Qu'on était libre alors, l'âge d'or de la liberté. Jamais on n'en connaîtrait plus de pareil. Le monde s'acheminait vers un âge de force, de santé, d'action virile, et peut-être de gloire, mais d'autorité dure et d'ordre étroit. L'aurons-nous assez appelé de nos vœux, l'âge de fer, l'âge classique, les grands âges classiques, Louis XIV ou Napoléon, nous paraissent à distance les cimes de l'humanité, et peut-être la nation y réalise-t-elle le plus victorieusement son idéal d'État. Mais allez donc demander aux héros de ce temps ce qu'ils en ont pensé. Votre Nicolas Poussin s'en est allé vivre et mourir à Rome. Il étouffait chez vous. Votre Pascal, votre Racine ont dit adieu au monde. Et parmi les plus grands, que d'autres vécurent à l'écart, disgraciés, opprimés. Même l'âme d'un Molière cachait des amertumes. Pour votre Napoléon, que vous regrettez tant, vos pères ne semblent pas s'être doutés de leur bonheur. et le maître lui-même ne s'y est pas trompé. Il savait que quand il disparaîtrait, le monde ferait ouf. Autour de l'impérator, quel désert de pensées. Sur l'immensité de sable, le soleil africain. Christophe ne disait point tout ce qu'il ruminait. Quelques allusions avaient suffi à mettre Emmanuel en fureur. Il ne les renouvela point. Mais il avait beau garder pour lui ses pensées, Emmanuel savait qu'il les pensait. Bien plus, il avait obscurément conscience que Christophe voyait plus loin que lui, et il n'en était que plus irrité. Les jeunes gens ne pardonnent pas à leurs aînés qui les contraignent à voir ce qu'ils seront dans 20 ans. Christophe lisait dans son cœur et se disait « Il a raison, à chacun sa foi, il faut croire ce qu'on croit. Dieu me garde de troubler sa confiance dans l'avenir. » Mais sa seule présence était une cause de trouble. De deux personnalités qui sont ensemble, quelque effort qu'elles fassent toutes deux pour s'effacer, l'une écrase toujours l'autre, et l'autre en garde en soi la rancune humiliée. L'orgueil d'Emmanuel souffrait de la supériorité d'expérience et de caractère de Christophe, et peut-être se défendait-il de l'amour qu'il sentait grandir pour lui. Il devint plus farouche, il ferma sa porte, il ne répondit pas aux lettres. Christophe dut renoncer à le voir. On était arrivé au premier jour de juillet. Christophe faisait le compte de ce que ses mois lui avaient apporté. Beaucoup d'idées nouvelles, peu d'amis. Des succès brillants et dérisoires. Retrouver son image, le reflet de son œuvre, affaibli ou caricaturé, dans des cerveaux médiocres, et cela n'a rien de réjouissant. Et de ceux dont il eût aimé à être compris, la sympathie lui manquait. Il n'avait pas accueilli ses avances. Il ne pouvait se joindre à eux, quelque désir qu'il eût de s'associer à leurs espoirs, de leur être un allié. On eût dit que leur amour-propre inquiet se défendit de son amitié et trouva plus de satisfaction à l'avoir pour ennemi. Bref, il avait laissé passer le flot de sa génération sans passer avec elle, et le flot de la génération suivante ne voulait pas de lui. Il était isolé, et ne s'en étonnait pas, toute la vie l'y ayant habitué. Mais il jugeait que maintenant il avait conquis le droit, après ce nouvel essai, de retourner dans son ermitage suisse, en attendant de réaliser un projet qui, depuis peu, prenait plus de consistance. À mesure qu'il vieillissait, il était tourmenté du désir de revenir s'installer au pays. Il n'y connaissait plus personne. Il y trouverait sans doute encore moins de parenté d'esprit que dans cette ville étrangère. Mais ce n'en est pas moins le pays. Vous ne demandez pas à ceux de votre sang de penser comme vous. Il existe entre eux et vous 1000 secrets liens. Les sens ont appris à lire dans le même livre du ciel et de la terre, le cœur parle la même langue. Il raconta gaiement ses mécomptes à Grazia et dit son intention de retourner en Suisse. Il demandait, en plaisantant, la permission de quitter Paris et annonçait son départ pour la semaine suivante. Mais à la fin de la lettre, un post-scriptum disait « J'ai changé d'avis, mon départ est remis ». Christophe avait en Grazia une confiance entière. Il lui livrait le secret de ses plus intimes pensées. Et pourtant, il y avait un compartiment de son cœur dont il gardait la clé. C'étaient les souvenirs qui n'appartenaient pas seulement à lui, mais à ceux qu'il avait aimés. Ainsi, il se taisait sur ce qui touchait à Olivier. Sa réserve n'était pas voulue. Les mots ne pouvaient sortir quand il allait parler à Grazia de l'ami. Elle ne l'avait point connu. Or, ce matin-là, tandis qu'il écrivait à son ami, on frappa à la porte. Il alla ouvrir en maugréant d'être dérangé. Un jeune garçon de 14 à 15 ans demanda à M. Kraft. Christophe, bourru, le fit entrer. Il était blond, les yeux bleus, les traits fins, pas très grands, la taille mince. Debout devant Christophe, il restait sans parler, un peu intimidé. Très vite, il se remit, et il leva ses yeux limpides qui le considéraient avec curiosité. Christophe sourit, en regardant le charmant visage, et le jeune garçon sourit aussi. « Eh bien, lui dit Christophe, qu'est-ce que vous voulez ?»« Je suis venu, dit l'enfant. » Il se troubla de nouveau et rougit. « Je vois bien que vous êtes venu, dit Christophe en riant. « Mais pourquoi êtes-vous venu ? Regardez-moi. Est-ce que vous avez peur de moi ?»« Non. » « Bravo. Alors dites-moi d'abord qui vous êtes. »« Je suis, dit l'enfant. » Il s'arrêta encore. Ses yeux, qui faisaient curieusement tout le tour de la chambre, venaient de découvrir, sur la cheminée de Christophe, une photographie d'Olivier. Christophe suivit machinalement la direction de son regard. Allons, fit-il, courage. L'enfant dit, je suis son fils. Christophe tressauta. Il se souleva de son siège, saisit le jeune garçon par les deux bras et l'attira à lui. Retombé sur sa chaise, il le tenait étroitement serré. Leurs figures se touchaient presque. Il le regardait en répétant, « Mon petit, mon pauvre petit !» Brusquement, il lui prit la tête entre ses mains et il l'embrassa sur le front, sur les yeux, sur les joues, sur le nez, sur les cheveux. Le jeune garçon, effrayé et choqué par la violence de ces démonstrations, se dégagea de ses bras. Christophe le laissa. Il se cacha le visage dans ses mains. Il appuya son front contre le mur et il resta ainsi pendant quelques instants. Le petit avait reculé au fond de la chambre. Christophe releva la tête. Sa figure était apaisée. Il regarda l'enfant avec un sourire affectueux. « Je t'ai effrayé, dit-il. Pardon. Vois-tu, c'est que je l'aimais bien. » Le petit se taisait, encore effarouché. « Comme tu lui ressembles, dit Christophe. Et pourtant, je ne t'aurais pas reconnu. Qu'y a-t-il de changé ? » Il demanda, « Comment t'appelles-tu ? » « Georges. » « C'est vrai, je me souviens. Christophe Olivier Georges. Tu as quel âge ? »
14 ans. »«
14 ans ? Il y a si longtemps déjà ? » ?»« Cela me paraît hier. » »« Ou dans la nuit des temps. » »« Comme tu lui ressembles. » »« Ce sont les mêmes traits. Le même est cependant un autre. La même couleur des yeux et pas le même regard. Le même sourire, la même bouche et pas le même son de voix. Tu es plus fort, tu te tiens plus droit. » Tu as la figure plus pleine, mais tu rougis comme lui. Viens, assieds-toi, causons. Qui t'a envoyé chez moi ?
Personne.
C'est de toi-même que tu es venu ? Comment me connais-tu ?
On m'a parlé de vous.
Qui ?
Ma mère.
Ah, dit Christophe, est-ce qu'elle sait que tu es venu chez moi ?
Non.
Christophe se tut un moment, puis demanda, où habitez-vous ?
Près du parc Monceau.
Tu es venu à pied ?
Oui.
C'est une bonne course. Tu dois être fatigué.
Je ne suis jamais fatigué.
À la bonne heure. Montre-moi tes bras.
Il les palpa.
Tu es un solide petit gars. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de venir me voir ?
C'est que papa vous aimait plus que tout.
C'est elle qui te l'a dit ? Il se reprit. C'est ta mère qui te l'a dit ?
Oui.
Christophe sourit, pensif. Il songeait, elle aussi, comme ils l'aimaient tous. Pourquoi donc ne le lui ont-ils pas montré ? Il continua. Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour venir ?
Je voulais venir plus tôt, mais je croyais que vous ne vouliez pas me voir.
Moi ? Il y a plusieurs semaines, au concert Chevillard, je vous ai aperçu. J'étais avec ma mère, à quelques fauteuils de vous. Je vous ai salué. Vous m'avez regardé de travers, en fronçant le sourcil, et vous ne m'avez pas répondu.
Moi, je t'ai regardé ? Mon pauvre petit !
Tu as pu penser.
Je ne t'ai pas vu.
J'ai les yeux fatigués. Voilà pourquoi je fronce le sourcil.
Tu me crois donc bien méchant ?
Je crois que vous pouvez l'être aussi, quand vous voulez.
Vraiment, dit Christophe.
En ce cas, si tu pensais que je ne voulais pas te voir, comment as-tu osé venir ?
Parce que moi, je voulais vous voir.
Et si je t'avais mis à la porte ? Je ne me serais pas laissé faire.
Il disait cela d'un petit air décidé, confus et provoquant tout ensemble.
Christophe éclata de rire, et Georges fit comme lui.
« C'est moi que tu aurais mis à la porte. Voyez-vous cela ? Quel luron ! Non, décidément, tu ne ressembles pas à ton père. »
Le visage mobile du jeune garçon s'assombrit. « Vous trouvez que je ne lui ressemble pas ? Mais vous disiez tout à l'heure, « Alors, vous croyez qu'il ne m'aurait pas aimé ? Alors, vous ne m'aimez pas ? Et qu'est-ce que cela peut te faire, que je t'aime ?
Cela me fait beaucoup. »
Parce que je vous aime. » En une minute, ses yeux, sa bouche, tous ses traits se coloraient de 10 expressions diverses. Comme en un jour d'avril, l'ombre des nuages qui courent sur les champs au souffle des vents printaniers. Christophe éprouvait une joie délicieuse à le voir, à l'entendre. Il lui semblait être lavé des soucis du passé. Ses tristes expériences, ses épreuves, ses souffrances et celles d'Olivier, tout était effacé. Il renaissait tout neuf dans ce jeune surgeon de la vie d'Olivier. Ils causèrent. Georges ne connaissait rien de la musique de Christophe avant ces derniers mois. Mais depuis que Christophe était à Paris,
il ne manquait pas un concert où l'on jouait de ses œuvres. Il en parlait, le visage animé, les yeux brillants, riant, et les larmes tout proches. Un amoureux. Il confia à Christophe qu'il adorait la musique et que lui aussi il voulait en faire. Mais Christophe s'aperçut, après quelques questions, que le petit en ignorait les éléments. Il s'informa de ses études. Le jeune Jeannin était au lycée. Il dit allègrement qu'il n'était pas un fameux élève. « Où es-tu le plus fort, en lettres ou en sciences ?»« C'est à peu près la même chose partout. »« Mais comment? Est-ce que tu serais un cancre ?» Il rit franchement et dit « Je crois que oui. » Puis il ajouta confidentiellement « Mais je sais bien que non, tout de même. » Christophe ne put s'empêcher de rire. « Alors, pourquoi ne travailles-tu pas? Est-ce que rien ne t'intéresse ?»« Au contraire, tout m'intéresse. »« Eh bien alors, tout est intéressant, on n'a pas le temps. »« Tu n'as pas le temps? Et que diable fais-tu ?» Il esquissa un geste vague. « Beaucoup de choses. Je fais de la musique, je fais du sport, je vais voir des expositions, je lis. Tu ferais mieux de lire tes livres de classe. »« On ne lit jamais en classe ce qui est intéressant. Et puis nous voyageons. » Le mois dernier, j'ai été en Angleterre pour voir le match entre Oxford et Cambridge. Cela doit bien avancer tes études. Bah, on apprend plus ainsi qu'en restant au lycée. Et ta mère, que dit-elle de cela?
Ma mère est très raisonnable. Elle fait tout ce que je veux.
Mauvais diable, tu as de la chance de ne pas m'avoir pour père.
C'est vous qui n'auriez pas eu de chance.
Impossible de résister à son air enjôleur. Et dis-moi, grand voyageur, fit Christophe, « connais-tu mon pays ?»«
Oui. »«
Je suis sûr que tu ne sais pas un mot d'allemand. »«
Je sais très bien, au contraire. »«
Voyons un peu. » Et ils se mirent à causer en allemand. Le petit baragouinait d'une façon incorrecte, mais avec un aplomb drôlatique. Très intelligent, d'un esprit éveillé, il devinait plus qu'il ne comprenait. Il devinait souvent de travers. Il était le premier à rire de ses bévues. Il racontait ses voyages, ses lectures, avec entrain. Il avait beaucoup lu, hâtivement, superficiellement, en passant la moitié des pages, en inventant ce qu'il n'avait pas lu, mais toujours talonné par une curiosité vive et fraîche qui cherchait partout des raisons d'enthousiasme. Il sautait d'un sujet à l'autre, et sa figure s'animait en parlant des spectacles ou d'œuvres qu'il avait émues. Ses connaissances étaient sans aucun ordre. On ne savait pas comment il avait lu un livre de sixième rang et ignorait tout des œuvres les plus célèbres. « Tout cela est très gentil, » dit Christophe. « Mais tu n'arriveras à rien si tu ne travailles pas. »«
Oh, je n'en ai pas besoin. Nous sommes riches. »«
Diable, c'est grave, alors. Tu veux être un homme qui n'est bon à rien, qui ne fait rien ?»«
Au contraire, je voudrais tout faire. C'est stupide de s'enfermer toute sa vie dans un métier. »«
C'est encore la seule façon qu'on ait trouvée de le faire bien.
On dit ça. »«
Comment on dit ça ?»«
Moi, je dis ça. Voilà 40 ans que j'étudie mon métier. » Je commence à peine à le savoir.
40 ans pour apprendre son métier?
Et quand peut-on le faire, alors?
Christophe se mit à rire. Petit français raisonneur. Je voudrais être musicien, dit Georges.
Eh bien, il n'est pas trop tôt pour t'y mettre. Veux-tu que je t'apprenne?
Oh, je serais si heureux. Viens demain, je verrai ce que tu vaux.
Si tu ne vaux rien, je te défends de mettre jamais les mains sur un piano.
Si tu as des dispositions, nous essaierons de faire de toi quelque chose.
« Mais je t'avertis, je devrais travailler. »«
Je travaillerai, » dit Georges, ravi. Ils prirent rendez-vous pour le lendemain. Au moment de sortir, Georges se rappela que le lendemain, il avait d'autres rendez-vous, et aussi le surlendemain. Oui, il n'était pas libre avant la fin de la semaine. On convint du jour et de l'heure. Mais le jour et l'heure venus, Christophe attendit en vain. Il fut déçu. Il s'était fait une joie enfantine de revoir Georges. Cette visite inattendue avait éclairé sa vie. Il en avait été si heureux et si ému qu'il n'en avait pas dormi de la nuit qui avait suivi. Il songeait, avec une gratitude attendrie, au jeune ami qui était venu le trouver de la part de l'ami. Il souriait, en pensée, à cette charmante figure. Son naturel, sa grâce, sa franchise malicieuse et ingénue le ravissaient. Il s'abandonnait à cet enivrement muet, à ce bourdonnement du bonheur qui remplissait ses oreilles et son cœur dans les premiers jours de l'amitié avec Olivier. Il s'y joignait un sentiment plus grave et presque religieux, qui, par-delà des vivants, apercevait le sourire du passé. Il attendit le lendemain et le surlendemain. Personne. Pas une lettre d'excuse. Christophe, attristé,
chercha des raisons pour excuser l'enfant. Il ne savait où lui écrire. Il n'avait pas son adresse. L'aurait-il connu qu'il n'eût osé lui écrire? Un vieux cœur qui s'éprend d'un jeune être éprouve une pudeur à lui témoigner le besoin qu'il a de lui. Il sait bien que celui qui est jeune n'a pas le même besoin. La partie n'est pas égale, et l'on ne craint rien tant que de paraître s'imposer à qui ne se soucie point de vous. Le silence se prolongeait. Bien que Christophe en souffrît, il se contraignait à ne faire aucune démarche pour retrouver les Jeannins. Mais, chaque jour, il attendait celui qui ne venait point. Il ne partit pas pour la Suisse. Il resta tout l'été à Paris. Il se jugeait absurde, mais il n'avait plus goût à voyager. En septembre seulement, il se décida à passer quelques jours à Fontainebleau. Vers la fin d'octobre, Georges Jeannin revint frapper à la porte. Il s'excusa tranquillement, sans la moindre confusion, de son manque de parole. « Je n'ai pas pu venir, dit-il, et ensuite nous sommes partis, nous avons été en Bretagne. »
« Tu aurais pu m'écrire, dit Christophe.
« Oui, c'était ce que je voulais faire, mais je n'avais jamais le temps. Et puis, dit-il en riant, j'ai oublié, j'oublie tout. « Depuis quand es-tu revenu ?»«
Depuis le commencement d'octobre. »
« Et tu as mis 3 semaines pour te décider à venir ? Écoute, dis-moi franchement, c'est ta mère qui t'empêche ? Elle n'aime pas que tu me vois ?»«
Mais non, tout au contraire, c'est elle qui m'a dit aujourd'hui de venir. »«
Comment cela ?»«
La dernière fois que je vous ai vu, avant les vacances, je lui ai tout raconté en rentrant. Elle m'a dit que j'avais bien fait. Elle s'est informée de vous. Elle m'a fait beaucoup de questions. Quand nous sommes rentrés de Bretagne, il y a 3 semaines, elle m'a engagé à retourner chez vous. » Il y a 8 jours, elle me l'a rappelé de nouveau. Et ce matin, quand elle a su que je n'étais pas encore venu, elle a été fâchée. Elle a voulu que je vinsse tout de suite après déjeuner, sans plus attendre.
« Et tu n'as pas honte de me raconter cela? Il faut qu'on te force à venir chez moi ?»«
Non, non, ne croyez pas. Oh, je vous ai fâché. Pardon. C'est vrai, je suis étourdi. Grondez-moi, mais ne m'en veuillez pas. Je vous aime bien. Si je ne vous aimais pas, je ne serais pas venu. On ne m'a pas forcé. » Moi, d'abord, on ne me force jamais à faire ce que je veux faire.
Garnement, dit Christophe en riant malgré lui.
Et tes projets musicaux, qu'est-ce que tu en as fait?
Oh, j'y pense toujours. Cela ne t'avance pas beaucoup.
Je veux m'y mettre à présent. Ces mois derniers, je ne pouvais pas. J'avais tant, tant à faire. Et maintenant, vous allez voir comme je vais travailler.
Si vous voulez encore de moi.
Il avait des yeux câlins.
Tu es un farceur, dit Christophe.
Vous ne me prenez pas au sérieux?
« Ma foi, non.
C'est dégoûtant. Personne ne me prend au sérieux. Je suis découragé. Je te prendrai au sérieux quand je t'aurai vu au travail. »«
Tout de suite, alors. Je n'ai pas le temps. Demain. »«
Non, c'est trop loin, demain. Je ne peux pas supporter que vous me méprisiez tout un jour. »«
Tu m'ennuies.
Je vous en prie. » Christophe, souriant de sa faiblesse, le fit asseoir au piano et lui parla de musique. Il lui posa des questions. Il lui faisait résoudre de petits problèmes d'harmonie. Georges ne savait pas grand-chose, mais son instinct musical suppléait à beaucoup d'ignorance. Sans connaître leur nom, il trouvait les accords que Christophe attendait, et ses erreurs même témoignaient, dans leur gaucherie, d'une curiosité de goût et d'une sensibilité singulièrement aiguisée. Il n'acceptait pas sans discussion les remarques de Christophe, et les intelligentes questions qu'il posait à son tour montraient un esprit sincère qui n'acceptait pas l'art comme un formulaire de dévotion qu'on récite des lèvres, mais qui voulait le vivre pour son propre compte. Ils ne s'entretèrent pas seulement de musique. À propos d'harmonie, Georges évoquait des tableaux, des paysages, des âmes. Il était difficile à tenir en bride. Il fallait constamment le ramener au milieu du chemin. Et Christophe n'en avait pas toujours le courage. Il s'amusait à écouter le joyeux bavardage de ce petit être, plein d'esprit et de vie. Quelle différence de nature avec Olivier! Chez l'un, la vie était une rivière intérieure qui coulait silencieuse. Chez l'autre, elle était tout en dehors, un ruisseau capricieux qui se dépensait à des jeux au soleil. Et pourtant, la même belle eau pure comme leurs yeux. Christophe, avec un sourire, retrouvait chez Georges certaines antipathies instinctives, des goûts et des dégoûts qu'il connaissait bien. Et cette intransigeance naïve, cette générosité de cœur qui se donne tout entier à ce qu'on aime. Seulement, Georges aimait tant de choses qu'il n'avait pas le loisir d'aimer longtemps la même.
Il revint le lendemain et les jours qui suivirent. Il s'était pris d'une belle passion juvénile pour Christophe, et il s'appliquait à ses leçons avec enthousiasme. Et puis, l'enthousiasme faiblit, les visites s'espacèrent. Il vint moins souvent. Et puis, il ne vint plus. Il disparut de nouveau pour des semaines. Il était léger, oublieux, naïvement égoïste et sincèrement affectueux. Il avait bon cœur et une vive intelligence qu'il dépensait en menue monnaie au jour le jour. On lui pardonnait tout parce qu'on avait plaisir à le voir. Il était heureux. Christophe se refusait à le juger. Il ne se plaignait pas. Il avait écrit à Jacqueline pour la remercier de ce qu'elle lui avait envoyé son fils. Jacqueline répondit une courte lettre d'une émotion contenue. Elle exprimait le vœu que Christophe s'intéressât à Georges, le dirigeât dans la vie. Elle ne faisait aucune allusion à la possibilité de rencontrer Christophe. Par pudeur de souvenir et par fierté, elle ne pouvait se résoudre à le revoir. Et Christophe ne se crut point permis de venir sans qu'elle l'y invitât. Ainsi, ils restèrent séparés l'un de l'autre, s'apercevant de loin, parfois à un concert, et reliés seulement par les rares visites du jeune garçon.